Chapitre 13e. L'apostolat du Sacré-Cœur commence. Avec quelle modestie et quel zèle la Bienheureuse s'applique à répandre la dévotion au Sacré-Cœur. Partez, ange rapide, allez porter la bonne nouvelle à une nation divisée et déchirée, à un peuple terrible et qui n'a pas son égal, à une nation qui attend, qui est foulée aux pieds et dont la terre est ravagée comme par une inondation. Au cœur de Jésus, ravissez-nous. Nous courons à l'odeur de vos parfums. En demandant à la Bienheureuse de ne faire pour le moment aucune tentative du côté de la communauté, la mère Melun ne lui avait pas défendu de travailler à répandre au dehors la dévotion au cœur de Jésus. L'heure de l'apostolat venait de sonner. Notre sainte était de plus en plus consumée par l'amour de ce cœur adorable. Après avoir contenu quelque temps ce feu divin, elle le sentait qui se voulait épancher. Elle aurait pu dire, comme notre Seigneur, « Je suis venu apporter le feu sur la terre, et que puis-je désirer, si ce n'est qu'il s'allume ?» Elle écrivait au commencement de cette année 1686, « Il me semble ne respirer que pour l'accroissement de la dévotion au cœur de Jésus, et il s'allume quelquefois dans mon cœur un désir si grand de le faire régner dans tous les cœurs qu'il n'y a rien que je ne voulusse faire et souffrir pour cela. » Même les peines de l'enfer sans le péché me seraient douces. Je ne saurais plus m'occuper d'autre chose que du Sacré-Cœur de mon Jésus, et je mourrais contente si je lui ai procuré quelque honneur. Quand même il m'en devrait coûter une peine éternelle pour récompense. Pourvu que je l'aime et qu'il règne, il me suffit. La contradiction m'a mis souvent sur le point de cesser d'en parler, mais j'étais si fort reprise de mes vaines craintes et ensuite tellement fortifiée et encouragée que j'ai résolu, quoi qu'il m'en coûte, de poursuivre jusqu'au bout. Encore, si l'obéissance ne me le permettait pas, je quitterais tout, parce que je lui défère toutes mes vues et sentiments. La vie m'est une croix si pesante qu'il n'y a aucune consolation pour moi que de voir régner le cœur de mon Sauveur. Il n'y a rien que je ne voulusse souffrir pour cela. Les deux premiers fragments de lettres que nous venons de citer sont adressés à la mère greffier, qui, après avoir quitté Paris en 1684, avait été nommée supérieure de la visitation à Sémur en Auxois. Le troisième fragment est tiré d'une lettre à la mère de Sommez, qui alors était supérieure de Dijon. C'étaient, on se le rappelle, les deux premières supérieures de Marguerite Marie, les deux premières confidentes de ces grandes révélations. Avant d'aller à Dijon, la mère de Sommez avait passé 3 ans à Moulins où elle avait préparé la mère de Soudeil à comprendre et à goûter les mystères de la dévotion au cœur de Jésus. Ce sont ces trois religieuses qui vont commencer l'œuvre de l'apostolat. Cachée dans son humilité, ne voulant paraître en rien, ayant horreur des lettres et des parloirs, la Bienheureuse sera leur inspiratrice. Elle, plus âgée, plus libre, puisqu'elles sont à la tête d'un monastère, plus hardie aussi, puisque ce n'est pas à elle qu'ont été faites les révélations, elles seront les porte-voix de la Bienheureuse, les solliciteuses, selon l'expression de la mère de Sommez, et les héros du Sacré-Cœur. La première chose que désirait la Bienheureuse, c'était une image qui frappa les yeux et qui prépara les cœurs. Nulle dévotion ne devient populaire qu'à cette condition, et tout grand amour en a besoin. Aussi, à peine enfermés dans les catacombes, les premiers chrétiens avaient voulu se donner cette joie. Ils s'étaient essayés à peindre sur la muraille obscure les traits du Sauveur, ceux de la Vierge, sa mère, ceux des apôtres, et si inhabile que fût leur pinceau, si imparfaite que soient quelquefois ces ébauches, il y a encore, même aujourd'hui, après Fra Angelico et après Raphaël, un grand charme à les contempler. L'art est souvent nul, mais le cœur y est. Pareille chose arriva à Paris. On s'était d'abord contenté d'une simple image de papier crayonné avec de l'encre. Maintenant, on voulait mieux. Mais la difficulté était grande. Il s'agissait de représenter un cœur et de l'idéaliser, et, par je ne sais quel coup de pinceau, d'y faire apparaître la divinité et l'amour. Van Eyck a bien pu mettre sur le front d'un agneau toute la majesté d'un dieu, mais il n'y avait pas de Van Eyck à Paris. Hélas, il n'y en a point eu depuis, ni à Paris, ni ailleurs. Et après 2 siècles de tâtonnements et d'essais, nous attendons encore la main magistrale qui fera respirer sur la toile, dans l'immatérielle beauté de la passion qui le dévore, le cœur adorable de Jésus-Christ. En attendant, on essayait comme aux catacombes quelques coups de pinceau timides. 1 mois après la fête du noviciat, La bienheureuse écrit à la mère de Saumaise pour la prier de lui venir en aide. « Il a passé ici, lui dit-elle, un jeune homme qui venait de Paris et qui est parent d'une de nos sœurs novices. » Celui-ci, lui en ayant parlé, il s'offrit avec une ardeur admirable de faire faire ce tableau, tant beau qu'on le voudrait. Il n'y a plus qu'à lui donner le dessin. C'était la difficulté. Pour encourager la mère de Saumaise à vaincre cette difficulté et à chercher à Dijon, vieille capitale du duché de Bourgogne, foyer des lettres et des arts, un peintre capable de réussir en choses si difficiles, elle lui parle d'une vision qu'elle vient d'avoir, où elle a entendu notre Seigneur lui dire que tous ceux qui seraient dévoués à ce Sacré-Cœur ne périraient pas, et que comme il est la source de toute bénédiction, il les répandrait avec abondance dans tous les lieux où serait posée l'image de cet aimable cœur pour y être aimé et adoré, qu'il réunirait par ce moyen les familles divisées, qu'il protégerait celles qui seraient en quelque nécessité, et qu'il donnerait une grâce spéciale de salut et de sainteté à la première personne qui ferait faire cette sainte image. Et une autre fois, avec plus d'instance, je serais bien aise de savoir si vous pourriez faire une chose que le Sacré-Cœur de notre bon maître vous a destinée et réservée. C'est que, comme vous avez été la première à qui il a bien voulu que je dise l'ardent désir qu'il avait d'être connu, aimé et adoré des créatures, il voudrait que ce fût vous qui fissiez faire une planche de l'image de ce Sacré-Cœur, afin que tous ceux qui voudront lui rendre quelque hommage particulier puissent avoir des images dans leur maison et de petites pour porter sur eux. Il me semble que ce serait un grand bonheur pour vous si vous lui procuriez cet honneur dont vous serez plus récompensé que d'aucune chose que vous ayez faite dans votre vie. » Elle en écrivit presque dans les mêmes termes et encore avec plus d'ardeur d'âme à la mère greffier. « Si vous saviez, ma bonne mère, combien je me sens pressée d'aimer le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me semble que la vie ne m'est donnée que pour cela. Il m'a gratifié d'une visite qui m'a été extrêmement favorable pour les bonnes impressions qu'elle a laissées dans mon cœur. Il m'a confirmé que le plaisir qu'il prend d'être aimé, connu et honoré de ses créatures est si grand que, si je ne me trompe, il m'a promis que ceux qui lui auront été dévoués ne périront jamais, et que, comme il est la source de toutes les bénédictions, il les répandra avec abondance dans tous les lieux où sera posée et honorée l'image de son divin cœur. » La bienheureuse, après avoir spécifié ses bénédictions, presque dans les mêmes termes que dans sa lettre à la mère de Saumaise, ajoute « Il m'a donné à connaître que son Sacré-Cœur est le Saint des Saints, le Saint d'amour, qu'il voulait être connu à présent pour être le médiateur entre Dieu et les hommes, car il est tout-puissant pour faire leur paix en détournant les châtiments que nos péchés ont attirés et pour nous obtenir miséricorde. » La mère greffier achevait alors de lire la retraite du père de la Colombière. Cette lecture d'une part, cette lettre de l'autre, la connaissance parfaite qu'elle avait des grandes révélations du Sacré-Cœur et de la sainteté de la Bienheureuse, lui persuadèrent que l'heure d'un acte solennel était venue. Ayant probablement sous la main un peintre de quelque valeur, elle fit exécuter un tableau à l'huile qui représentait le cœur adorable de Jésus, le plaça au-dessus d'un autel, dans un petit oratoire et à la tête de sa communauté. Elle s'agenouilla et se consacra solennellement au cœur de son divin maître. On ne pouvait pas réparer plus simplement ses hésitations, ni donner à tout l'ordre dont elle était une des plus éminentes supérieures un plus éclatant signal. De plus, voulant offrir à la bienheureuse un présent qui lui irait au cœur, elle fit faire une copie du tableau, et y joignant 12 petites images à la plume, elle les lui envoya pour étrennes. La bienheureuse ne contint pas sa joie. Elle écrivit d'abord à la mère greffier pour la remercier avec effusion. « Je ne puis vous dire la consolation que vous m'avez donnée, tant en m'envoyant la représentation de cet aimable cœur, comme aussi en voulant bien nous aider à l'honorer avec toute votre communauté. Cela me cause des transports de joie 1000 fois plus grands que si vous me mettiez en possession de tous les trésors de la terre. Et un peu après, je mourrai maintenant contente, puisque le Sacré-Cœur de mon Sauveur commence à être connu, et moi, inconnu. Je vous ressouviens de ce que vous m'avez promis, qui est d'empêcher autant que vous le pourrez qu'il ne soit fait aucune mention de moi après ma mort, que pour demander des prières pour la plus nécessiteuse et méchante religieuse de l'Institut. » Elle ajoute en terminant, « Il veut que je vous dise que votre communauté a tellement gagné son amitié en lui rendant les premiers devoirs, qu'elle est devenue l'objet de ses complaisances. Et il ne veut plus qu'en priant pour elle, je la nomme autrement, que la communauté bien-aimée de son cœur. » En même temps que la bienheureuse épanchait ainsi sa reconnaissance, dans les termes d'une admirable humilité, sans perdre une minute, elle distribuait toutes les petites images de la mère greffier à ceux qui pouvaient le mieux en profiter, une au père jésuite de Paray, deux à la mère de Soudeil et à la sœur de la Barge à Moulins, une autre à la mère de Sommez à Dijon, en lui demandant instamment d'en faire faire une planche en taille douce, car ses petits dessins à la plume ne pouvaient être répandus en bien grand nombre, au lieu, disait-elle, que si l'on avait une planche, on les distribuerait à l'infini. La mère de Soudeil, ayant reçu les deux images de ce divin cœur, garda pour elle la plus petite, la voulant toujours porter sur son cœur. La plus grande fut exposée à la vénération des sœurs, dans la chambre du monastère de Moulins, où était morte sainte Chantal. À partir de ce jour, ce pieux oratoire fut plus fréquenté que jamais. Le premier vendredi du mois, toute la communauté venait y faire à genoux l'amende honorable. Cependant, quelque joie qu'eût éprouvée la bienheureuse en apprenant la consécration solennelle de ses murs au Sacré-Cœur, l'impression produite sur la communauté de Paray, et en particulier sur la sœur Marie-Madeleine des Escures, avait été peut-être plus profonde. Le monastère de Paray était, pour ainsi dire, divisé alors en deux grands partis. Le parti des anciennes, rigides observatrices des règles, gardiennes ferventes des usages, ayant à leur tête la sœur Marie-Madeleine, et le parti des jeunes, formé par la Bienheureuse, ou subissant sa sainte influence et dévoués au cœur de Jésus. Entre ces deux parties, la bonne mère Melun maintenait la paix par sa prudence. On peut dire que la mère greffier, si rigide et si ferme dans sa bonté et dans sa ferveur, avait été du parti des anciennes. Quand donc on apprit ce qu'elle venait de faire, ce fut une émotion profonde, et nul ne la ressentit plus vivement que la sœur Marie-Madeleine. De cœur, elle avait toujours été tendrement unie à la Bienheureuse. Elle l'aimait et la vénérait. Mais d'esprit, elle était avec la mère greffier. Elle la savait austère, observatrice des moindres règles, nullement novatrice, et n'agissant qu'après les plus sérieuses réflexions. Elle avait vécu 6 ans sous son gouvernement, et elle la regardait comme un des piliers de l'observance, une des plus fermes colonnes de l'Institut. Si donc la mère greffier s'était décidée à se prosterner au pied du Sacré-Cœur et à inaugurer solennellement cette dévotion, pourquoi hésiterait-elle ou hésiterait-on encore à Paray ? Qui pouvait douter, après un tel exemple, qu'il n'y avait rien là de contraire ni à la lettre des règles, ni à l'esprit de la visitation, ni, à plus forte raison, à la foi de l'Église ? Elle en parla à la mère Melun, depuis longtemps gagnée en secret à cette cause, et de concert avec elle, prépara en silence une réparation publique, une solennelle amende honorable. On choisit pour cela le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, jour arrêté dans les décrets éternels, pour être dans l'église le grand jour de l'adoration du cœur de Jésus. Le matin, en entrant à la chapelle, les sœurs aperçoivent comme un petit reposoir au milieu du chœur. On s'approche, on regarde. Sur un petit autel recouvert d'un tapis, une image du Sacré-Cœur, la miniature même de la mère greffier, était exposée au milieu des fleurs et de cierges bénis. Un billet attaché à l'autel et signé de la sœur Marie-Madeleine invitait toutes les sœurs à s'agenouiller et à se consacrer au cœur adorable de notre Seigneur. On n'hésite plus. Toutes les anciennes entraînées par la sœur Marie-Madeleine, toutes les jeunes conduites et enflammées par la Bienheureuse, se prosternent comme deux cœurs d'anges et offrent à notre Seigneur. Celles-ci des adorations joyeuses, celles-là des prières mêlées de regrets, toutes un pur encens et le plus agréable à Dieu. Car si les unes l'avaient glorifié par leurs empressements, celles-là ne l'avaient guère moins servi par leur prudence. La bienheureuse Marguerite Marie et la sœur Marie-Madeleine s'embrassèrent. Et il n'y eut plus désormais dans le monastère qu'un seul cœur, pour louer, pour aimer et pour adorer le divin cœur de Jésus. On vota d'enthousiasme un grand et beau tableau du Sacré-Cœur et la construction d'une chapelle où il serait exposé. En attendant, et comme pour mieux réparer sa faute, la sœur Marie-Madeleine demanda à être chargée du petit oratoire consacré par le noviciat au cœur de Jésus. Je vous dirai que nous avons un second tableau du Sacré-Cœur. C'est notre chère sœur de Farge qui l'a fait faire. Il est, comme je l'avais désiré pour cette petite chapelle qui est la première qui a été érigée en l'honneur de ce divin cœur, et notre chère sœur des Escures en a le soin. C'est un petit bijou, tant elle l'ajuste bien. Cependant, la bienheureuse n'était pas encore satisfaite. Un tableau à l'huile, c'était bien, mais il ne pouvait servir que dans un lieu. Des images sur velin et à la plume, on en faisait partout, à Paray, à Dijon, à Sémur, à Moulins, mais on ne pouvait pas en avoir assez. Il fallait absolument une planche en taille douce qui permit d'en tirer des nombres considérables et de les distribuer dans toutes les familles. Elle en écrit à la mère de Sommez, tout occupée, elle aussi, en ce moment, à faire peindre un grand tableau. Elle insiste. Ce n'est pas là ce que notre Seigneur demande d'elle, mais une image imprimée en taille douce afin que chacun puisse en acheter selon sa dévotion. Sur ces entrefaites, un père jésuite, qui arrivait de Lyon, proposa de faire faire cette planche. Il pressait vivement et se montrait tout zèle, mais quand il en eut été chargé, il ne fit plus rien. Toujours en route, en mission, promettant tout, n'exécutant rien, puis, quand il eut été envoyé à Aix, voulant d'emporter l'image avec lui et la faire exécuter là-bas, ce qui était déraisonnable. La bienheureuse eut mille peines à arracher de ses mains le croquis et elle l'envoya à la mère de Sommez, la conjurant de se mettre à l'œuvre. « Voilà, ma chère mère, le crayon que le bon père nous a renvoyé, avec un déplaisir sensible de n'avoir pu achever l'œuvre. Mais Dieu, qui fait tout pour le mieux, fera que l'image en sera mieux faite. Car ce dessin dont il nous a envoyé le crayon n'est pas joli, ni à mon gré. C'est pourquoi vous m'obligerez infiniment à le changer. » La mère de Sommez avait, à Dijon, auprès d'elle, une jeune sœur, Jeanne-Madeleine Jolie, qui se distinguait entre toutes par la plus tendre dévotion au Sacré-Cœur. Elle lui communiqua cette lettre, en exprimant le désir qu'elle essayât une autre esquisse qui répondît mieux à la pensée de la bienheureuse. La sœur s'y mit avec simplicité et réussit pleinement. « Je ne puis vous exprimer, lui écrit aussitôt la bienheureuse, les doux transports de ma joie en recevant votre image, qui est telle que je la désirais. La consolation que j'éprouve de l'ardeur que vous témoignez pour le Sacré-Cœur est au-dessus de toute expression. Continuez, ma chère sœur, j'espère qu'il régnera ce divin cœur, malgré tout ce qui s'y oppose. Pour moi, je ne puis que souffrir et me taire. Ce dessin qui répondait si bien au désir de la bienheureuse ne fut cependant pas exécuté à Dijon. Après bien des tâtonnements, on dut l'envoyer à Paris. Et c'est par les soins du premier monastère que fut enfin gravée cette planche attendue depuis si longtemps. Un premier pas était donc fait pour la royale glorification du cœur de Jésus et pour la diffusion de son culte. Outre les tableaux à l'huile qui commençaient à se multiplier, outre les petites miniatures sur velin, les petits pastels, les crayons à la plume qui circulaient de monastère en monastère et déjà se distribuaient dans les missions, on avait, après mille difficultés, une planche gravée qui allait permettre d'en tirer autant d'exemplaires qu'on voudrait et de les répandre dans le monde. Cependant, si utile que fût une image pour faire connaître et pour propager la dévotion au Sacré-Cœur, elle ne pouvait pas suffire. Il fallait un livre qui interpréta cette image, qui expliqua cette dévotion et qui offrit aux fidèles quelques prières, des litanies, un modèle d'adoration et d'amende honorable. Si la bienheureuse eût voulu le permettre, elle avait composé sur ce sujet tant de méditations, d'élévations et de prières qu'on n'aurait eu que l'embarras du choix. Mais qui eût osé lui parler d'une telle chose? On l'eût fait rentrer jusqu'au centre de son néant. La sœur Jeanne-Madeleine Jolie, qui avait si bien réussi pour l'image du Sacré-Cœur, eut l'idée de composer un petit livre, de quelques pages seulement pour expliquer cette image. La bienheureuse, avertie par elle, la félicita vivement et la pressa de se hâter. Soumise à l'évêque de Langres, approuvée par son grand vicaire, l'ouvrage était imprimé avant la fin de l'année et envoyé aussitôt dans tous les monastères de l'ordre. Il accompagnait l'image et la faisait comprendre. La mère de Soudeil eut à Moulins la même idée qu'avait eue la sœur Jolie. Elle composa, elle aussi, un petit livre sur la dévotion au cœur de Jésus. Seulement moins discrète que la sœur Jolie, elle y inséra des prières, des actes de consécration composés par la bienheureuse, et souleva un peu le voile dont celle-ci s'enveloppait avec tant de soin. Nous vous envoyons, écrit la bienheureuse à la mère de Sommez, ce petit livret que la mère de Soudeil a fait imprimer, après que quelques personnes de considération et que je ne connais pas lui eurent fait présent des litanies de ce Sacré-Cœur, de l'amende honorable et le reste, qui m'a donné ce qui m'est dû, qui est des confusions effroyables. En le lisant, vous comprendrez bien ce que je veux dire, sans qu'il vous soit besoin que je m'en explique davantage, et dont j'aurais sujet en quelque façon de vous accuser, mais la volonté de Dieu soit faite. Bientôt parut un petit office du Sacré-Cœur composé par un saint religieux dont la Bienheureuse fait un éloge extraordinaire, mais qui s'est tellement caché dans son humilité que c'est à peine si nous avons pu retrouver son nom, sans aucun détail sur sa vie. Il était de la compagnie de Jésus et se nommait le père Jette. Vous me demandez le nom de ce saint religieux qui a composé un petit office du Sacré-Cœur dans la pensée que ce divin cœur désirait cela de lui. Ayez la bonté de me dispenser de vous le dire pour le présent. Je vous dirai seulement que ce sera un second père de la Colombière. L'office fut imprimé et peu après mis en vers français. Adieu, ma bonne mère, je crois que vous ne désagréerez pas que je vous présente une version en vers de l'office du Sacré-Cœur que l'on trouve admirablement beau. Le succès de ces petits opuscules joints à l'image du Sacré-Cœur fut considérable. On en demandait partout. Tout le monde voulait en avoir. J'avais prié votre charité de nous faire savoir si on imprimait encore des petits livres du Sacré-Cœur et si vous nous faisiez la grâce de nous en envoyer. Je vous en resterai infiniment obligé. Car vous ne sauriez croire avec combien d'empressement on en demande. Et encore, ces petits livres ont toujours tant de presse ici qu'on ne peut avoir à demi pour contenter la dévotion d'un chacun. Et ailleurs, on a mis ces livres au prix de 7 sols, et toute la première édition ayant été distribuée en moins de rien, en voilà déjà une seconde, et je ne pense pas qu'on s'arrête là. Et ce n'était pas seulement à Paray, à Dijon, à Sémur, à Moulins, c'est-à-dire au lieu même où était née cette dévotion, c'était à Lyon, Marseille, Paris, partout le même empressement. Il faut que je vous fasse part d'un trait à la gloire du divin cœur qui vous fournira sujet de le bénir. J'avais donné à une personne de Lyon un des livres de Dijon. Elle le fit lire à un jeune père qui, l'ayant montré à ses écoliers de Lyon, ils y prirent tant de goût qu'ils en firent un grand nombre de copies, tant des litanies que des prières, lesquelles ils récitaient avec grande dévotion. Et ses enfants l'ayant fait voir à d'autres, ils y prirent une si grande dévotion que comme l'on ne pouvait suffire d'en faire des copies, ils résolurent de faire imprimer un de ces livres, s'offrant à l'envie d'en payer la dépense. Et un jeune artisan s'y porta avec tant d'ardeur qu'il fallut céder à sa dévotion, et s'étant adressé à un des plus fameux libraires de Lyon pour cela. Celui-ci se sentit tellement touché de l'amour de ce divin cœur qu'il prit d'abord la dévotion d'en faire la dépense à ses frais, ce qui fit un pieux combat entre le jeune homme et lui. Mais enfin, ayant gagné sa cause, il demanda le livre du Sacré-Cœur et s'en alla trouver un de ses amis pour y faire quelque augmentation. Et c'est un saint religieux qui s'en est chargé. Et l'on en a fait nouvellement imprimés qui sont très beaux et bien reliés. Et le débit en a été si grand que pour la seconde fois qu'on les a imprimés depuis le 19 juin, il n'y en a déjà plus. Et nous sommes le 21 août. Et que l'on va les faire imprimer pour la troisième fois. Ce petit livre commençait même à sortir de France. Je vous avoue, mon unique mère, qu'il y a consolation pour tous ceux qui l'aiment de voir étendre cette dévotion partout. La très honorée mère de notre premier monastère de Lyon l'a envoyé en Pologne. Je veux dire le petit livre de Lyon, lequel on nous mande que l'on va traduire en italien. Elle écrivait encore le 22 octobre 1689. Quelle consolation d'entendre les heureux progrès de cette aimable dévotion. On nous mande de Lyon que cela tient du miracle, de voir comme chacun s'y porte avec ardeur et empressement. On nous a nommé 3 ou 4 villes où l'on va faire imprimer ces livres, dont Marseille en est une, et on en a pris 1000 pour ce seul endroit. Et de 27 maisons religieuses qu'il y a en cette ville, il n'y en a point qui n'ait pris cette dévotion avec tant d'ardeur que les unes lui érigent des autels, les autres lui font faire des chapelles. C'est-à-dire que le culte naissait de lui-même. Après l'image, le livre. Après le livre, voici maintenant l'autel, la chapelle. On en construisait partout. C'était un dommage qui manquait encore au cœur adorable de Jésus, et plus grand que les autres, parce qu'il est à la fois plus éclatant, plus populaire et plus indestructible. La première de toutes ces chapelles, celle qui avait été votée d'enthousiasme le jour où le monastère de Paray s'était prosterné tout entier au pied du cœur de Jésus, fut achevée le 7 septembre 1688 et dédiée avec une solennité extraordinaire. tous les curés de la ville et des paroisses voisines, accompagnés d'une grande foule, se rendirent d'abord à l'église paroissiale, puis vinrent processionnellement dans notre enclos. Il était 1 heure après midi, et la cérémonie dura 2 heures. Sur l'autel, on avait placé le tableau du Sacré-Cœur que la mère de Sommez avait fait exécuter en grand, d'après la miniature de la mère greffier, et dont la bienheureuse disait « Je ne me pouvais lasser de la regarder tant je le trouvais beau, de le regarder tant je le trouvais beau. » Pendant les 2 heures que dura cette pieuse cérémonie, notre humble et heureuse Marguerite demeura à genoux dans la chapelle, tellement ravie et abîmée en Dieu que, de toutes les personnes qui désiraient ardemment lui parler, pas une ne l'osa faire. Beaucoup qui ne l'avaient jamais vue la regardaient avec curiosité. On l'entourait de toutes parts. Plusieurs même l'observaient pour voir si elle ne changerait pas de position, mais elle fut toujours immobile comme une statue. Que se passa-t-il alors dans l'intérieur de cette sainte amie de Jésus? C'est un secret qu'elle n'a pas trahi, mais en voyant le triomphe du Sacré-Cœur et du cœur sacré, son âme s'écria sans doute, comme autrefois le vieillard Siméon, « Maintenant, je mourrai contente, puisque le cœur de mon Sauveur commence d'être connu et adoré. » Le seul regret que l'on put avoir, c'est que cette chapelle avait été construite au fond du jardin, en un point inaccessible au peuple, au lieu de l'être sur la rue. Mais la piété populaire ne s'arrêta pas devant cet obstacle. On faisait le tour du jardin, et on voyait les paysans s'agenouiller au milieu de la route, contre le mur extérieur de ce sanctuaire, le premier où était publiquement adoré le cœur de Jésus. On commençait donc sa marche triomphante, cette grande et tendre dévotion à l'amour infini. À chaque lettre de la Bienheureuse, on aperçoit un nouveau progrès. D'abord obscur et caché, couvant, pour ainsi dire, dans l'ombre du cloître, la voilà qui franchit toutes les grilles, qui perce et apparaît au grand jour. Après la chapelle de Paray, il y en a, peu après, une seconde, celle du bois Sainte-Marie, bâtie par leurs frères même de la Bienheureuse, puis celle de Dijon, et un peu plus tard, celle de Moulins, de Sémur. Bientôt, chaque visitation aura la sienne, le culte est commencé. Il faut vous dire avec grande consolation qu'on a ici beaucoup de dévotion à ce divin cœur et que plusieurs y font des neuvaines avec des cierges allumés et reçoivent l'effet de leur demande. J'apprends que l'on a érigé une congrégation sous le titre du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas bien si c'est à Paris, mais je sais qu'il s'en fait encore une autre toute dédiée à l'honorer. Il restait cependant encore un dernier hommage, le plus haut de tous. On avait le culte intime, individuel, le culte privé. Il fallait, pour achever l'œuvre de la glorification du Sacré-Cœur, qu'au culte privé se joignît le culte public, que le saint sacrifice de la messe fût solennellement offert en l'honneur du cœur adorable de Jésus. Et ce fut encore la petite sœur Jeanne-Marie Jolie qui eut cette glorieuse initiative. S'enhardissant dans son amour, elle osa bien composer une messe en l'honneur du cœur de Jésus. Elle le fit en français, ne sachant pas d'autre langue. Puis pria le bon monsieur Charolais, confesseur du monastère, de la lui mettre en latin. Après quoi, le tout fut envoyé à l'évêque de Langres, avec prière à instant de vouloir bien en autoriser la célébration publique au monastère. Ce que ce bon et saint prélat accorda avec joie. C'était beaucoup, mais cela même ne pouvait suffire ni à la sœur Jolie, ni à la mère de Sommez, ni à tout le monastère de Dijon. Quand on eut l'approbation de l'évêque, on rêva d'avoir l'approbation du pape. On envoya un exemplaire de cette messe à la supérieure de la Visitation de Rome, avec prière de la communiquer au cardinal Cibot, et par lui au souverain pontife. On conjurait humblement, mais instamment sa sainteté, de vouloir bien accorder l'autorisation de célébrer publiquement et dans toute l'Église la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Le coup était hardi de la part d'humbles religieuses. Ce que furent les prières de notre sainte pendant les négociations ne se peut dire. On sent dans ses lettres une sorte d'impatience qui ne lui est pas ordinaire. Il me semble que je mourrais contente si vous obteniez l'autorisation de la messe en l'honneur de l'adorable cœur de Jésus. La réponse de Rome fut longue à venir. Rome ne se presse pas. Elle est patiente parce qu'elle est sage et parce qu'elle est éternelle. Quand cette réponse arriva, elle perça d'un glaive de douleur le cœur de la bienheureuse. Rome répondait que l'heure n'était pas venue de donner une approbation qui s'étendit à l'Église universelle. Mais, sur les indications bienveillantes du cardinal Cibaud, la supérieure de Rome ajoutait qu'il n'y avait pas lieu de se décourager, qu'il fallait faire d'abord établir publiquement cette dévotion dans le diocèse avec la permission de l'ordinaire, et que, quand elle aurait subsisté pendant quelque temps, il serait plus facile d'obtenir que Rome se prononçât. Dirigé par des conseils si sages, et d'autre part soutenu par la bienheureuse, qui affirmait de plus en plus que, malgré toutes les contradictions, le cœur de Jésus triompherait, la mère de Sommez, ou plutôt la mère des Barres, devenue dans l'intervalle supérieure de Dijon, s'adressa à l'évêque de Langres pour le supplier de bien vouloir permettre qu'on célébrât publiquement la fête du Sacré-Cœur, non seulement dans le monastère de Dijon, mais dans tout le diocèse. L'autorisation ayant été accordée, tout se prépara au monastère de Dijon pour une solennelle glorification du cœur de Jésus. Toutefois, comme la cérémonie publique ne pouvait avoir lieu qu'après Pâques, pour contenter l'impatience des sœurs, on organisa une petite fête toute intime. Un tableau du Sacré-Cœur fut placé dans le sanctuaire des religieuses. Et M. Bouillet, supérieur de la Visitation, célébra la messe le 4 février 1689, premier vendredi du mois, en présence seulement de la communauté. Cette messe est la première qui ait été dite dans l'Église catholique en l'honneur du cœur de Jésus. Je laisse à penser le ravissement de la mère de Sommez, de la sœur Jolie, de la mère des Barres, de toutes ces âmes d'élite qui avaient tant fait pour arriver à ce résultat et qui battaient d'un si pur amour pour le cœur de leur bien-aimé. Ce fut une journée du ciel, et comme le pendant de la première adoration du Sacré-Cœur dans le petit oratoire de Paris. À partir de ce jour, le tableau du Sacré-Cœur fut exposé tous les vendredis dans le sanctuaire des religieuses. Ce jour-là, elles le passaient presque tout entier, agenouillées devant le cœur de leur divin maître. On ne pouvait pas les en arracher. La fête publique eut lieu après Pâques. Le chapitre du Cal de la Sainte-Chapelle vint en procession dans l'église de la Visitation et y chanta la même messe en musique. Le Saint-Sacrement fut exposé toute la journée, au milieu d'un concours inaccoutumé. Peu après, une confrérie fut établie pour l'adoration perpétuelle du Sacré-Cœur. Toute la ville en voulut être, et on eut en quelques jours 6 gros volumes de noms où l'on rencontre les plus illustres de la province. La première heure d'adoration fut faite par un vénérable chanoine de la Sainte-Chapelle, M. Bénigne Joly, d'une sainteté extraordinaire. Le Saint-Vincent de Paul de la Bourgogne, le fondateur et le promoteur de toutes les grandes œuvres à Dijon, que le peuple a surnommé le Père des pauvres et auquel l'Église vient de décerner le titre de vénérable. Le culte public du Sacré-Cœur était solennellement inauguré. Ainsi, peu à peu, en s'effaçant le plus qu'elle pouvait, sans bruit, sans sortir de l'ombre, la bienheureuse commençait à recruter des adorateurs au cœur de son époux bien-aimé. Le culte public succédait au culte privé. Déjà même, sans que l'humble Marguerite s'en fût mêlée autrement que par ses désirs et ses prières, la nouvelle dévotion avait été frappée aux portes du Vatican et elle avait éveillé l'attention du souverain pontife. Il était facile de prévoir, quelle que soit la prudence de l'Église, en choses qui sont si délicates, puisqu'elles touchent à la gloire de Dieu, qu'un peu plus tôt ou un peu plus tard, la dévotion au cœur de Jésus monterait sur tous les autels de la chrétienté. Ces différentes choses s'achevaient vers le milieu de 1689. La bienheureuse n'avait plus que quelques mois à vivre. On pouvait croire sa mission terminée quand tout à coup son couchant s'illumina. Elle eut, sur le bord de sa tombe, une nouvelle révélation, aussi éclatante que les révélations de sa jeunesse, où Dieu lui fit voir ses grands desseins sur la France et un second côté inattendu et admirable de la dévotion au cœur de Jésus.